Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonjour ou bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. L'Indonésie a besoin d'une stratégie visant à renforcer l'industrie locale au niveau mondial. La promotion de Wonderful Indonesia sur le marché touristique BALT. Le nombre de touristes laitons en Indonésie augmente. L'Indonésie va continuer ensemble avec la Palestine jusqu'à l'indépendance. Le ministère indonésien chargé de la coordination des affaires économiques a confirmé 4 produits d'exportation exempts de l'obligation de soumettre des rapports d'arpenteur. Le gouvernement s'est concentré de plus en plus sur l'augmentation des exportations de produits manufacturés. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'Indonésie a besoin de la bonne stratégie pour ne pas devenir un marché pour les acteurs commerciaux de commerce électronique de l'étranger, mais aussi pour renforcer les capacités des industries locales au niveau mondial. Cela a été dit par le chercheur senior de l'Indonésia for Global Justice, Olisian Gultom, Dimas à Jakarta. Il a souhaité que l'Indonésie ne devienne pas seulement un marché, mais qu'elle aura également besoin d'une stratégie appropriée pour soutenir le renforcement des micro, petites et moyennes entreprises dans la région, notamment les petites et moyennes industries villageoises, à travers l'utilisation de la technologie numérique. Selon lui, la préparation des installations de soutien dans la région, telles que la capacité logistique adéquate et la préparation de serveurs basés sur la région ou ville, doit également pouvoir être effectuée simultanément à la construction d'un réseau national à large bande. Olisias Gultom a rappelé que la valeur et la croissance de l'économie numérique indonésienne en 2018 était le plus important de l'ASEAN et même dans le monde. L'Indonésie a animé et promu divers objets touristiques à l'exposition Baltic Tour qui s'est tenue à Riga, Lettonie, du 1er au 3 février dans le but d'attirer les touristes des pays de cette région. M. Bagas Hapsoro, l'ambassadeur d'Indonésie en Suède, a déclaré à Antara Londres dimanche que Baltic Tour était l'un des événements les plus prestigieux organisés dans la capitale lettonne, réunissant des participants de plusieurs pays, en plus de la communauté urbaine à Riga. Dans le festival qui présente diverses cultures des quatre coins du monde, le ministère indonésien du tourisme a ouvert un stand Wonderful Indonesia dans le lieu le plus stratégique en exposant des arts traditionnels. En outre, l'ambassade d'Indonésie a envoyé des artistes à Baltic Tour pour donner du divertissement et introduire la richesse des arts culturels indonésiens sous la forme de la danse de Jaipong et Kuda Lumping qui ont réussi à merveiller les visiteurs. Selon l'ambassadeur Bagas Hapsara, la Lettonie est un marché très potentiel pour l'industrie du tourisme indonésien ayant du tourisme naturel, la beauté culturelle, la flore et la faune. Divers forfaits touristiques proposés par le stand indonésien lors de la mise en œuvre de la promotion touristique de l'Indonésie qui s'est déroulée du 1er au 3 février à Riga, en Lettonie, ont permis aux visiteurs de déterminer la destination principale vers l'Indonésie préférée. cité par Radio République Indonésie à Jakarta dimanche. Selon les archives de l'ambassade d'Indonésie à Stockholm, la combinaison de revenus élevés et d'un nombre de jours de congés assez longs a encouragé les Lettons à se rendre dans des pays lointains, y compris l'Indonésie. Cela basé sur des données liées à l'augmentation du nombre de touristes lettons qui ont visité l'Indonésie au cours des trois dernières années. Valdis Tilgalis, le consul honoraire d'Indonésie en Lettonie, a déclaré que pour anticiper l'augmentation du nombre de touristes étrangers, l'Indonésie devait augmenter ses activités promotionnelles, à la fois en participant au marché de voyage, en organisant des réunions d'affaires entre les acteurs indonésiens de l'industrie du tourisme et en Lettonie, en organisant des voyages à la FEM en coopérant avec la compagnie aérienne. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie continuerait de soutenir la lutte palestinienne pour l'indépendance par la diplomatie internationale. C'est ce qu'a affirmé la ministre Retno Marsudi lors d'une conférence publique sur le thème « La démarche de la diplomatie indonésienne » à l'Université Andalas Padang samedi, assistée du gouverneur de Sumatra Ouest, M. Irwan Prayitno, le recteur de l'Université Andalas, Tafdil Husni et d'autres invités. Mme Retno Marsudi a déclaré que le 22 janvier 2019, lorsqu'elle a participé au Conseil de sécurité des Nations Unies et au débat public sur la Palestine, elle est optimiste que la Palestine est dans la pensée et le cœur de tous les Indonésiens. Lors d'une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle a indiqué que l'Indonésie avait déclaré fermement qu'il n'y avait pas d'autre choix pour résoudre les conflits palestiniens et israéliens, en plus de la solution des deux États. Le ministère indonésien de la coordination des affaires économiques a confirmé qu'à l'étape initiale, il existait 4 produits d'exportation exemptés de l'obligation de soumettre des rapports d'Arpenter. Le secrétaire du ministère chargé de la coordination de l'économie, M. Susiwiono, a déclaré à Jakarta dimanche, rédigé par Antara, que les 4 produits d'exportation dont le processus d'exportation sera rendu facile sont l'huile de palme brute et ses dérivés, le gaz exporté par canalisation, rotan semi-fini et le bois rondant de la plantation industrielle. Pour cette raison, au début du mois de février, l'obligation de soumettre un rapport d'Arpenter à deux groupes de produits, à savoir le CPO et ses dérivés et le gaz par pipeline, sera supprimée. Cette suppression a été marquée par des modifications apportées à la réglementation du ministre du Commerce qui régit les obligations des rapports d'Arpenter sur les deux produits, à savoir l'huile de palme brute et ses dérivés, et le gaz à travers le pipeline. Le gouvernement indonésien s'est concentré de plus en plus à améliorer les performances des industries de transformation axées sur l'exportation, à améliorer la structure économique actuelle, compte tenu les produits manufacturés ont contribué plus aux exportations nationales. Comme cité par Antara, le ministre indonésien de l'Industrie, M. Erlangga Hartarto, a déclaré que l'industrie manufacturière pouvait contribuer à la valeur d'exportation à 74% en contribuant de 20% au produit intérieur brut et à la taxation d'environ 30%. Parmi ces réalisations, l'industrie manufacturière joue un rôle important d'encourager l'investissement et des exportations, devenant ainsi un secteur essentiel pour l'accélération de la croissance économique nationale. Par conséquent, le gouvernement s'est engagé à revitaliser l'industrie manufacturière par la mise en œuvre de la feuille de route de Making Indonesia 4.0 afin qu'elle soit également prête à entrer dans l'ère de la révolution industrielle 4.0. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, écoutons maintenant le commentaire intitulé « Améliorer l'économie nationale à l'ère industrielle 4.0 ». Le ministère indonésien de l'Industrie renforce des industries de transformation orientées vers l'exportation afin d'améliorer la structure de l'économie nationale actuelle. Jusqu'à présent, les produits manufacturés ont contribué le plus à la valeur des exportations nationales qui atteint 74%. En outre, l'industrie manufacturière contribue également au produit intérieur brut de 20% à une imposition d'environ 30%. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de l'Industrie, est déterminé à revitaliser l'industrie manufacturière en mettant en œuvre la feuille de route Making Indonesia 4.0 afin d'être prête à entrer dans l'ère industrielle de la quatrième génération ou période de révolution industrielle 4.0. La feuille de route de Making Indonesia 4.0 comprend 5 secteurs principaux, à savoir l'industrie agroalimentaire, le textile et les vêtements, l'automobile, l'électronique et la chimie. Les 5 groupes manufacturiers ont pu contribuer à 65% à la valeur totale des exportations nationales. Le ministère de l'Industrie a également enregistré des exportations de l'industrie de transformation non pétrolier, non gazier, a continué à augmenter au cours des 4 dernières années. Outre par la feuille de route Making Indonesia 4.0, le ministère de l'Industrie applique également des mesures stratégiques pour améliorer la compétitivité et la qualité industrielle nationale. Entre autres, par le certificat de compétence de la main-d'œuvre industrielle et du développement des ressources humaines. En outre, le ministère de l'Industrie développe également des centres industriels. Dans la période 2015 jusqu'à 2018, le ministère de l'Industrie a réussi à développer 13 nouvelles zones industrielles à Java et hors de Java. Améliorer le secteur manufacturier est la bonne décision pour améliorer l'économie nationale. De plus, le monde, y compris l'Indonésie, face actuellement à l'ère industrielle 4.0 qui connaît bien sûr une concurrence très serrée. Les efforts du gouvernement pour améliorer l'économie nationale par divers moyens nécessitent également le soutien du secteur privé et de la communauté. Espérons que les mesures prises par le gouvernement pourront améliorer l'économie nationale et accroître la compétitivité de l'Indonésie dans un contexte de concurrence mondiale intense. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 4 février 1948, l'indépendance du Sri Lanka. En 1944, les Britanniques ont accordé la constitution de Suluburi au Sri Lanka établie par Lord Suluburi. Le Royaume-Uni a pour objectif de fournir une garantie constitutionnelle au Sri Lanka. Mais cette constitution de Suluburi a été rejetée par le peuple sri-lankais qui a réclamé le statut de Dominion de la Grande-Bretagne. En 1945, la Grande-Bretagne est forcée de succomber et de donner le statut de Dominion et approuvé par le peuple sri-lankais. Après cela, un gouvernement provisoire a été formé en tant que gouvernement de transition. Finalement, le 4 février 1948, le Sri Lanka acquis son indépendance avec le statut de Dominion dans l'environnement du Commonwealth. Le 4 février 1976, le tremblement de terre à Guatemala. Le 4 février 1976, le tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter a tué environ 23 000 personnes, blessés 76 000 personnes et laissés plus d'un million de personnes sans abri au Guatemala. Après le séisme, plusieurs zones étaient sans électricité et sans communication. Le tremblement de terre a été suivi de milliers de répliques, dont certaines plus grandes, causant des dégâts supplémentaires et des pertes de vie humaine. L'épicentre était situé près de la ville de Los Amates, dans la partie orientale de la ville de Motagua. Le 4 février, la Journée mondiale du cancer. La Journée mondiale du cancer est célébrée tous les 4 février pour sensibiliser le public au cancer et encourager la prévention, le dépistage et le traitement du cancer. La Journée mondiale contre le cancer a été créée par l'Union pour lutter internationale contre le cancer afin de soutenir la Déclaration mondiale sur le cancer adoptée en 2008. L'objectif principal de la journée est de réduire considérablement la morbidité et la mortalité par cancer en 2020. La Journée mondiale contre le cancer cible les informations erronées, sensibiliser et réduire la stigmatisation. Diverses initiatives menées lors de la Journée mondiale contre le cancer pour montrer leur soutien aux personnes atteintes de cancer. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Thank you.
setiap langkahku. Engkau adalah permataku, dambaanku, permata hatiku, permataku.
Serditor, setelah sang song ang titulé Permata Hati, chanté par Harvey Malaiholo. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie ang titulé BNPB consolide le potentiel national de gestion des catastrophes. Serditor, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre BNPB consolide le potentiel national de gestion des catastrophes. L'Agence nationale de la gestion des catastrophes naturelles, BNPB, a organisé une réunion de coordination nationale des catastrophes 2019 au Salon de Java Oriental, Surabaya, samedi. Plus de 4000 participants de l'Agence régionale de lutte contre les catastrophes naturelles, BPBD, dans toute l'Indonésie et des représentants de ministères, d'institutions, de gouverneurs, de régions, des maires, de TNI, de Polri, d'universitaires, etc., ont assisté à l'exposition. Accompagné du chef de BNPB, Doni Monardo, le président indonésien Joko Widodo a ouvert la réunion de coordination nationale de BNPB. Dans son discours, le président a déclaré que ce forum était très stratégique pour la coordination et la consolidation de la force possédée par l'Indonésie pour anticiper les catastrophes. À cette occasion, le président Joko Widodo a présenté 6 points de sa direction. Premièrement, la planification. La conception et la construction spatiale doivent prêter attention aux 4 sujets aux catastrophes. En regardant le cycle récurrent des catastrophes, on peut voir que les lieux des catastrophes sont souvent au même endroit. Par exemple, à Nusa Tenggara Ouest, la région touchée par le séisme en 2018 s'est avérée avoir également connu le même événement en 1978. Le séisme de Palu dans le centre de Sulawesi avait également eu lieu auparavant. Deuxièmement, des universitaires, des experts en catastrophe et des chercheurs doivent aussi y participer pour déterminer le point le plus exposé aux catastrophes. Cela doit être fait massivement. Troisièmement, s'il y a des catastrophes, le gouverneur local deviendra automatiquement le commandant de la force opérationnelle d'urgence avec le commandant militaire régional et le chef de la police régionale deviendront le commandant adjoint de la force opérationnelle. Quatrièmement, un système d'alerte précoce intégré basé sur les recommandations d'experts doit être utilisé, y compris au niveau régional. En apprenant du Japon, les gens n'ont pas paniqué lorsque le tremblement de terre s'est produit. Ils ont juste couru quand il y avait une sirène et connaissaient le chemin d'évacuation. Cinquième point est l'éducation aux catastrophes. Ce programme doit commencer cette année dans les zones sujettes aux catastrophes naturelles, aux écoles, à travers des enseignants et aux chefs religieux. Par conséquent, un panneau d'alerte et des itinéraires d'évacuation sont nécessaires. Le sixième point consiste à effectuer régulièrement des simulations des exercices de gestion des catastrophes afin de rappeler constamment aux communautés le niveau de leur voisinage, afin que celles-ci soient réellement préparées à faire face aux catastrophes. Les catastrophes peuvent être des tremblements de terre, des tsunamis, des inondations ou des glissements de terrain. Certes, la catastrophe la plus fréquente est le tremblement de terre. À cette occasion, le président du Comité d'eau a également pris part à un dialogue avec les participants. Après cela, il a observé la fissure des équipements pour la gestion des catastrophes. C'est Rita, c'était Mandonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Seberapa pantas kakak untuk ku tunggu? Cukup benda karirmu untuk selalu ku nantikan. Mumpukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Oh, mumpukah kita bertahan di saat kita jauh?
Seberapa hebat kau untuk ku banggakan?
Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson, Seberapa Pantas, chantée par Gag. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. C'est Chers auditeurs, bonsoir. Rencontrons-nous dans le magazine culturel. Pour aujourd'hui, nous vous présenterons Kolam Susuk à Nusa Tenggara Est. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. La province de Nusa Tenggara Est est une province en Indonésie qui compte de nombreuses destinations touristiques naturelles comme l'île de Komodo et le lac Kelimutu. En outre, cette province possède également une destination touristique à savoir Kolam Susuk ou le Tang Susuk, situé dans le village de Dualaus, le district de Kakuluk Mesak, la résidence de Belu, Nusa Tenggara Est. L'étang est un grand lac naturel. Autour de sa région, il y a des falaises imposantes. L'étang est naturellement formé et a un sol blanc, si bien que si l'étang est exposé au soleil, son eau reflète la lumière blanche comme du lait. C'est une des raisons pour lesquelles cet objet touristique s'appelle aussi Kolam Susu ou l'étang du lait. Cette destination touristique est entourée de denses forêts de mangroves qui causent de nombreux moustiques autour de cet endroit. C'est pourquoi la communauté locale a appelé l'étang Susuk ou dans la langue locale le nid de moustiques. Kolam Susuk est situé à environ 17 km du nord d'Atambua, la capitale de Belu. D'Atambua, Kolam Susuk est accessible d'environ 20 minutes de route à l'aide de voiture. Le chemin est sinueux, travers la vallée et la falaise. Mais ne vous inquiétez pas, car sa route a été pavée. Habituellement, cet objet de tourisme attire beaucoup de visiteurs les week-ends et les jours fériés. Les installations de Kolam Susuk sont plutôt bonnes comme l'eau potable, salle de repos, la bonne route, l'hébergement et la poste de contrôle. À l'objet du tourisme, il y a également des étals de nourriture et de boissons et des kiosques appartements à la communauté environnante. Jusqu'à présent, le gouvernement local développait toujours Kolam Susuk en tant qu'objet touristique et l'utilisait également comme centre de la culture du poisson lait et de la crevette afin que Kolam Susuk puisse continuer à être bien entretenu. Serviteur, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Voice of Indonesia.
Jantung turun, rintik
Cher Rito, c'était la chanson de Glenn Fredly intitulée Belayan Sayang. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'Indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Butuh waktu berapa lama ?» ou en langue française, « Combien de temps cela prend-il ?» Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Butuh waktu berapa lama ?» ou en langue française, « Combien de temps cela prend-il ?» Tony est dans un taxi pour aller à l'hôtel. Il voulait savoir combien de temps il faudrait pour aller de l'aéroport à l'hôtel Mutiara.
Berapa jam dari sini ke hôtel Mutiara?
Sekitar 30 menit.
Oh, kalau dari Malioboro ke Candi Prambanan, berapa lama?
Kalau tidak macet, sekitar 40 menit. Kalau macet, sekitar 1 jam.
Chers auditeurs, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir butuh waktu berapa lama? Butuh waktu berapa lama? En français, combien de temps cela prend-il? Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Jam. Jam. En français, heure. Berapa jam? Berapa jam? En français, combien d'heures? Berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara? Berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara? En français, combien d'heures d'ici à l'Hotel Mutiara? Berapa lama dari sini ke Hotel Mutiara? Berapa lama dari sini ke Hotel Mutiara? Combien de temps faut-il d'ici à l'Hotel Mutiara? Menit, menit, en français, minute. 30 menit, 30 menit, en français, 30 minutes. Sekitar 30 menit, sekitar 30 menit, en français, environ 30 minutes. Macet, macet, en français, embouteillage. Kalau tidak macet, sekitar 40 menit. Kalau tidak macet, sekitar 40 menit. En français, s'il n'y a pas d'embouteillage, environ 40 minutes. Kalau macet, sekitar 1 jam. Kalau macet, sekitar 1 jam. En français, s'il y a des embouteillages, environ 1 heure. 1 jam. 1 jam. En français, 1 heure. Sejam. Sejam. En français, une heure. L'unité de temps en langue indonésienne est jam, minute, dan detik. Jam, minute, dan detik. En français, heure, minute et seconde. Pour poser des questions sur la durée de temps, utilisez le mot question berapa. Berapa. En français, combien? Exemple. Berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara? Berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara? En français, combien d'heures d'ici à l'Hotel Mutiara? Berapa lama dari sini ke Hotel Mutiara? Berapa lama dari sini ke Hotel Mutiara? En français, combien de temps faut-il d'ici à l'Hotel Mutiara? Berapa jam dari Malioboro ke Candi Prambanan? Berapa jam dari Malioboro ke Candi Prambanan? En français, combien d'heures de Malioboro au Temple Prambanan? Berapa lama dari Malioboro ke Candi Prambanan? Berapa lama dari Malioboro ke Candi Prambanan? en français, combien de temps faut-il de Malioboro au temple Prambanan? En langage parlé ou courant, les mots question berapa, berapa, en français combien, siapa, siapa, en français qui, di mana, en français où, kemana, kemana, en français où aller, peut être placé au début ou à la fin de la phrase. Pour poser une question sur le temps, le mot question berapa est toujours avec le mot jam, jam, en français heure, menit, menit, en français minute, détic, détic, en français seconde, atau lama, lama, en français combien de temps. Exemple, dari hotel ke bandara berapa jam? Dari hotel ke bandara berapa jam? En français, combien d'heures d'hôtel à l'aéroport? À le même sens avec berapa jam dari hotel ke bandara? Berapa jam dari hotel ke bandara? En français, combien d'heures d'hôtel à l'aéroport? Dari hotel ke bandara berapa lama? Dari hotel ke bandara berapa lama? En français, combien de temps de l'hôtel à l'aéroport? Al même sens avec berapa lama dari hotel ke bandara? Berapa lama dari hotel ke bandara? En français, combien de temps de l'hôtel à l'aéroport? Dari hotel ke bandara berapa menit? Dari hotel ke bandara berapa menit? En français, combien de minutes d'hôtel à l'aéroport? Al même sens avec berapa menit dari hotel ke bandara? Berapa menit dari hotel ke bandara? En français, combien de minutes d'hôtel à l'aéroport? Pour répondre à cette question, vous pouvez mentionner le temps nécessaire, par exemple 30 menits. 30 menits. En français, 30 minutes. 40 menits. 40 menits, en français, 40 minutes, ou 1 jam, 1 jam, en français, 1 heure. Si vous n'êtes pas sûr du temps requis, vous pouvez ajouter le mot sekitar, sekitar, en français, environ, kira-kira, kira-kira, en français, environ, atau lebih kurang, lebih kurang, en français, environ. Exemple, Pak, berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara? Pak, berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara? En français, Monsieur, combien d'heures d'ici à l'Hotel Mutiara? Sekitar 30 menit. Sekitar 30 menit. En français, environ 30 minutes. Berapa jam dari Jakarta ke Yogyakarta? Berapa jam dari Jakarta ke Yogyakarta? En français, combien d'heures de Jakarta à Yogyakarta? Lebih kurang sejam. Lebih kurang sejam. En français, environ une heure. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara?
Sekitar 30 menit.
Oh, kalau dari Malioboro ke Candi Prambanan, berapa lama?
Kalau tidak macet, sekitar 40 menit. Kalau macet, sekitar 1 jam.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Izinkanlah ku ingin berkenalan. Terimalah salamku. Gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan tolonglah aku cinta.
Segrita, setelah Samsung intitulé Aku Cinta Dia, chanté par Elva Singer. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id. Segrita, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dans la rubrique du magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter les informations et la chanson de Keroncong, dont le titre est Tersenyum. Cette chanson raconte d'une chanson intitulée Tersenyum, chantée par des nomades à l'étranger. La chanson contient des dévotions sur la ville natale. Même si nous vivons à l'étranger, notre cœur se sent plus en paix à la terre natale. Une vieille chanson originale de Keroncong qui est agréable à écouter. Bon, chers auditeurs, écoutons ensuite la chanson de Keroncong intitulée Tersenyum ou en français Sourire par Wiwik Sriyono.
Thank you.
Chers auditeurs, c'est la mission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.